et la phraséologie officielle de la Chine d'aujourd'hui, au point de le trouver, ce mot, trônant en bonne place dans la liste des 12 valeurs centrales du socialisme telles qu'elles ont été définies par le Parti communiste. Donc vous voyez à l'image ces 12 valeurs que vous avez vues la dernière fois. Donc le mot qui nous intéresse le plus, en l'occurrence, c'est ce mot composé « wenming » ici. Donc vous voyez que ces 12 valeurs, je le disais la dernière fois, se répartissent par série de 4 sur 3 niveaux. Donc vous avez d'abord le niveau de l'État, ensuite le niveau de la société et enfin le niveau de l'individu. Or, ce terme de Wenming, ici, apparaît sur la toute première ligne, c'est-à-dire donc au niveau de l'État, où le mot est défini dans le texte qui accompagne donc cette affiche. Donc vous voyez ce terme Wenming isolé ici, donc à côté de la statue de Confucius, et c'est donc notre bon vieux Confucius qui est chargé de montrer que cette valeur de la civilisation, c'est-à-dire le fait d'être civilisé, qui est censée symboliser à elle seule l'enseignement et l'esprit confucéen tout entier, que cette valeur remonte à la haute antiquité de la Chine, considérée comme une civilisation. Donc nous avons les deux sens, les deux acceptions de ce terme Wenming en une seule représentation. Et donc le texte, je vous rappelle qu'il dit ceci, Wenming est un élément important du progrès de la société, c'est aussi un symbole important d'un pays socialiste moderne, c'est une condition indispensable de la construction de la culture, Wenhua, d'un pays socialiste moderne. Alors bonjour les répétitions, enfin bon, ce qu'on recherche, ce n'est pas tellement la légèreté ici. Et enfin, c'est un moyen important pour mettre en œuvre la glorieuse renaissance du peuple chinois, du Zhonghua Minzu. Donc ici, ce thème de la renaissance de la civilisation chinoise et du glorieux peuple chinois, c'est quelque chose d'omniprésent dans le discours officiel actuel. Mais l'illustration de Wenming pour les enfants, sous la forme de ce groupe de petits écoliers, ici, sur cette image que vous avez vue la dernière fois, cette illustration montre que cette valeur, qui est traduite ici par « civilité » en anglais, pourrait figurer également dans la troisième série, c'est-à-dire au niveau de l'individu, puisqu'il s'agit là d'une norme de comportement individuel qui, de fait, se trouve rendue en anglais ici non pas par « civilization », mais par donc civilité. Et ceci se trouve confirmé par cette autre image de Wenming que vous avez ici. Vous retrouvez toujours ces deux mêmes caractères ici, qui est explicité juste en dessous par ces deux caractères qui se lisent Li Mao. Li Mao veut dire la politesse, ça veut dire se comporter de manière polie et polissée dans ses rapports avec les autres. Là, je vous paraphrase un petit peu le texte, qui est de manière intéressante composé de formules régulières en 4 caractères. Là, vous le voyez même sans lire le chinois. Vous voyez que vous avez ces formules en 4 caractères. Ça se lit donc en vertical. Et vous avez ces formules régulières et qui sont en plus rimées, pour manifestement faciliter la récitation et la mémorisation. Donc là, vous avez dans ces messages toujours une forme de, comment dire, de pédagogie qui s'adresse aux adultes, mais c'est comme si, en fait, on s'adressait à des enfants. Hein. Et donc, ce texte parle de Wenming en termes de conduite élégante, hein, il parle de Wenya, et de conduite distinguée, nous dirions de manière un peu familière, se comporter de manière classe, tafang, par exemple, en pratiquant cette vertu confucéenne que vous avez ici, le texte n'est pas très net, de li rang, hein, c'est-à-dire donc se comporter selon les rites, et rang, ça veut dire céder la place, hein, en particulier. Le texte spécifie même que ça consiste à s'abstenir de cracher. Pour tous ceux d'entre vous qui connaissent un petit peu la Chine, vous savez que c'est un espèce de fléau national qu'il a fallu s'efforcer d'éradiquer, par exemple, à l'approche des Jeux Olympiques de 2008 à Pékin. Donc, les Pékinois étaient sommés de s'abstenir de cracher, parce que ça fait mauvais effet, surtout devant les étrangers, ça les choque beaucoup. Et ainsi de même pour tout événement international important dont la Chine est hôte, type G7, G8, etc. Donc, pendant ces événements, interdit de cracher. Alors, dans la foulée, il s'agit aussi d'éradiquer d'autres vieilles habitudes, comme on dirait pendant la révolution culturelle, des vieilles habitudes comme, par exemple, la façon de manger des Chinois. Je ne sais pas si vous... Aussi, là, je m'adresse à ceux qui connaissent un petit peu la Chine. Les Chinois, quand vous les voyez manger sans contrainte, si vous voulez, bon, ils sont le nez dans le bol, ils poussent le riz comme ça directement du bol dans la bouche avec les baguettes. Enfin, ils mangent un peu comme des goinfres, quoi. Et aussi, un autre fléau à combattre, c'est le gaspillage de nourriture. Hein, c'est ce que vous disent ces messages que vous trouvez dans un restaurant. Vous voyez que vous avez cette série d'affiches qui est placée à côté du menu, hein, donc évidemment on ne peut pas éviter de les voir. Hein, là, pour ceux d'entre vous aussi qui connaissent la Chine, vous avez ici la liste des plats, vous avez le mot fan ici, hein, donc le riz, et les boissons, donc shui ici, donc vous avez un menu. Et alors à côté, vous avez cette affiche, hein, qui... vous sommes de Wenming Yongcan. Vous avez ça sur la première ligne, Wenming Yongcan, Jie Jian Yang De. C'est-à-dire donc, Yongcan, ça veut dire donc prenez votre repas, mangez, hein, de façon Wenming, c'est-à-dire de façon civilisée, hein, donc polie, hein, avec les bonnes manières. Et la deuxième ligne, là aussi, il y a des connotations confucéennes. Jie Jian. Jie Jian, ça veut dire donc manger avec, disons, frugalité, hein, c'est-à-dire ne pas s'empiffrer, enfin bon, et surtout ne pas gaspiller. Hein, et ainsi, on peut yang de, c'est-à-dire littéralement nourrir son te, sa vertu, hein, c'est-à-dire que c'est une manière, manger de manière frugale comme ça, c'est une manière de se nourrir moralement, en quelque sorte. Hein. Alors, on pourrait dire, règle anti-gaspi, si j'ose dire, en fait, est devenue une véritable loi, hein, parce que là aussi, ceux qui connaissent un peu la Chine connaissent tous les doggy bags. À la fin d'un repas dans un restaurant, tous les restes des plats vont dans des boîtes en carton qu'on rapporte à la maison de manière à ne pas les gaspiller. Et sur donc l'affiche du milieu, vous retrouvez votre liste des 12 valeurs centrales du socialisme, ici disposées en 3 colonnes verticales. Alors, autre fléau national, alors là, là aussi pour ceux qui connaissent la Chine, l'hygiène des toilettes publiques. Alors, vous avez ici donc la photo d'un urinoir. Et donc, pour ces messieurs, vous avez ce message qu'ils ne peuvent pas éviter de voir, parce que forcément, ils y font face, et qui dit ceci, donc, « Xiang qian yi xiao bu, wen ming yi da bu ». Ça veut dire, donc, un petit pas en avant, hein, c'est-à-dire rapprochez-vous de l'urinoir, c'est un grand pas pour la civilisation, pour la civilité. Alors, moi, je trouve ça très, très amusant parce que c'est en plus, à mon sens, un peu inspiré de la fameuse phrase de l'astronaute américain Neil Armstrong lorsqu'il a mis le pied sur la Lune. Hein, donc, un petit pas pour un homme, un grand pas, littéralement un bond géant pour l'humanité. Hein, that's one small step for a man, one giant leap for mankind. Ainsi donc, en Chine, on n'échappe pas aux messages politiques et ou moralisants de ce type. Et on voit que dans ce contexte, Wenming, ce mot, couvre une gamme très large qui va de la valeur d'État à la vie quotidienne, je pourrais dire, la plus triviale. Hein, et on pourrait même dire que la civilisation, civilité, vous poursuit jusque dans les toilettes. Hein, donc là, vous êtes surveillé tout le temps. Hein, donc comportez-vous de façon civilisée, même quand vous pensez qu'on ne vous regarde pas. Hein. Alors, pourquoi finalement cette insistance sur... j'efface cette image de latrine pour ne pas offenser justement votre sens de la civilisation. Donc, pourquoi cette insistance sur cette notion de civilisation au milieu de valeurs principalement politiques, hein, si vous vous rappelez un peu la liste, ça commençait par richesse et puissance, et ensuite ça continuait par démocratie, liberté, égalité, équité, légalité, etc. Hein, donc que vient faire Wenming dans cette galère, hein. Alors nous en faisions la remarque la dernière fois, me semble-t-il. L'actuel leader suprême, et ça c'est juste tout le paradoxe, a lui-même souffert, ainsi que sa famille, des violences de la révolution culturelle, dont je vous rappelle ici à l'image le nom complet que vous avez sur les pancartes, « Wu Chan Jie Ji, Wen Hua Da Ge Ming, Wan Sui ». Donc, « Wan Sui », donc 10 000 ans, vive la grande révolution culturelle prolétarienne. Vous voyez donc s'afficher donc le nom complet de cette révolution brandi par des soi-disant manifestants, donc, mais c'est une manifestation qui a l'air très bien organisée, sur la place Tiananmen, dont nous allons voir qu'elle a vu passer pas mal d'événements majeurs et d'événements parfois très violents. Alors, est-ce que finalement on pourrait se dire que Monsieur Xi Jinping essaye de restaurer le passé de la Chine, ou du moins en édicter sa version à lui, en substituant Wenming, donc la civilisation, à Wenhua, la culture, cette Wenhua qui a été tellement marquée justement au sceau de la révolution culturelle dont il a tant souffert. Ça, c'est une hypothèse. Alors, la clé est peut-être justement dans une nouvelle éruption de violence qui a éclaté 20 ans après la fin de la révolution culturelle. Donc, vous voyez que les explosions de violence reviennent de manière assez fréquente quand même dans l'histoire contemporaine chinoise. Donc cette éruption de violence, évidemment, je fais allusion à la répression sanglante du mouvement pro-démocratique du printemps 1989. Alors, on oublie parfois que ce mouvement, dont tout le monde sait qu'il a été suivi par son écrasement par les chars envoyés sur la place Tiananmen à l'aube du 4 juin 89, donc ce mouvement a coïncidé avec la visite du leader soviétique de l'époque, Mikhail Gorbatchev, à Pékin, et dont tout le monde sait aussi que cette visite a précédé de quelques mois seulement donc, la chute du mur de Berlin et de quelques années l'effondrement définitif de l'Union soviétique elle-même. Alors, du côté des manifestants, vous avez ces manifestants qui, une fois de plus, se retrouvent sur la place Tiananmen. Parmi justement toutes les pancartes qu'ils brandissent, vous avez celle-ci qui dit Tishniela, c'est-à-dire déjà 70 ans. Alors, à quoi est-ce que ça fait référence? Ça fait référence, en fait, au 4 mai 1919, qui est véritablement l'événement qui marque l'entrée de la Chine dans la modernité, et presque plus que 1911 ou 1912, la proclamation de la première république de l'histoire chinoise par Sun Yat-sen. Donc, disons que les historiens, évidemment, retiennent la date de 1912, mais symboliquement, en fait, le 4 mai 1919, que les Chinois appellent le Wu Si Yun Dong, c'est-à-dire le Yun Dong, le mouvement de Wu Si, c'est-à-dire les Chinois mettent toujours le mois avant le jour, donc c'est le cinquième mois, c'est-à-dire le mois de mai, quatrième jour, c'est-à-dire donc le 4 mai 1919. Alors, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que dans tout le XXe siècle chinois, vous voyez revenir périodiquement donc, cette référence au 4 mai 1919, mais chaque fois dans un sens différent, voire opposé. Parce que, en réalité, dès le départ, dans cet événement du 4 mai 1919, il s'agissait, dont vous avez quelques images ici, alors vous voyez donc l'éternelle place Tiananmen, donc déjà le 4 mai 1919, des gens se regroupent pour manifester, voilà ce que ça donne. Donc ici, si la photo n'était pas aussi aussi flou et en noir et blanc, on pourrait penser que ça pourrait aussi être, pourquoi pas, 89. Hein, donc, et là, j'attirerai votre attention justement sur ce fétichisme du neuf qui n'est pas voulu. Hein, enfin, je veux dire, ça, ce n'est pas les manifestants qui ont attendu 1919 ou 1989 pour manifester, mais vous avez, et 1949, évidemment, aussi, c'est la l'instauration de la République populaire de Chine. Donc, vous avez un espèce de fétichisme du 9 qui se trouve être un chiffre extrêmement faste dans la cosmologie chinoise. Mais enfin, ça, c'est juste une parenthèse. Mais toujours est-il que cet événement du 4 mai 1919 tendait à la fois à en finir avec la vieille culture, ou un roi. Et c'est dans cette perspective-là que l'un des slogans favoris du 4 mai 1919, c'était Ta Tao Kong Jia Dian, c'est-à-dire donc abat Confucius et sa boutique, qu'on voit réapparaître, on l'a vu, au cours de la Révolution culturelle. Donc il y a ce côté iconoclaste, et en même temps, cette volonté d'embrasser la nouvelle civilisation, Wenming, donc, comprise comme modernité occidentale. Donc là, toute la problématique du 4 mai 1919, et on aura l'occasion d'y revenir, est justement ce paradoxe que nous sommes à la fois dans un mouvement de protestation des étudiants de Pékin contre les traités inégaux de Versailles, qui ont été signés à la suite de la Première Guerre mondiale, en 1919 justement, et en même temps une revendication de cette modernité comprise comme synonyme d'occidentalisation. Et là, en fait, on pourrait dire que la Chine actuelle n'est toujours pas sortie justement de ce dilemme. Est-ce que modernisation veut dire nécessairement occidentalisation ? Et je pense que ce que nous voyons se passer aujourd'hui, c'est une volonté justement de dissocier les deux, c'est-à-dire de dire que la Chine peut être un pays socialiste moderne, mais en même temps anti-occidentaliste. Voilà. Donc, résumé très sommairement, l'histoire du XXe siècle chinois. Alors, vous avez ici une caricature. Alors, ça fait plaisir quand même parce que le régime actuel nous met sur un régime sec, si j'ose dire, concernant les caricatures. On n'en voit pas beaucoup. Mais en 1919, on ne se privait pas donc, de publier des caricatures comme celle-là, où vous voyez donc, une foule de gens souffler ensemble. Et leur souffle est tellement puissant qu'elle renverse justement toute la clique au pouvoir. Et la phrase qui accompagne justement ce dessin, c'est Minqi yi zhi zhi xiao guo, Minqi yi zhi zhi xiao guo, c'est-à-dire donc le qi, le souffle du peuple, c'est-à-dire nous traduirions par l'expression de la volonté populaire. Ce souffle direct, il souffle directement, et voilà donc le xiaoguo, c'est-à-dire le résultat. C'est-à-dire que si le peuple se met à conspuer en même temps donc, les gens au pouvoir, donc ils partent complètement à la renverse. Alors, une autre allusion au 4 mai 1919, très explicite chez les étudiants de 1989. Ici, alors, vous avez la date très explicite de la photo. 1989, cinquième mois, donc le mois de mai, quatrième jour, donc nous sommes le 4 mai 1989, donc la date anniversaire du 4 mai 1919. Et vous avez donc cette banderole qui salue Te xianxeng, ni hao, c'est-à-dire ni hao, là tout le monde sait que ça veut dire bonjour en chinois, donc bonjour, et la traduction en anglais vous dit Hello, Mr. Democracy. Alors, Te xianxeng, une sorte de symbole du mouvement du 4 mai 1919 avec Sai xianxeng qui était la science. Vous aviez Monsieur Démocratie et Monsieur Science. Donc, ce que les Chinois ont fait, c'est qu'ils ont pris la première syllabe de la transcription de Democracy et de Science. Donc, ça donne De et Sai, Sai Xianxeng. Alors, ce qui est tout à fait curieux, c'est que le Mr. Democracy devient Madame Démocratie, à savoir donc cette statue. Qu'on a appelée la déesse de la démocratie, donc ça s'est féminisé entre-temps, par les soins des étudiants de l'école des Beaux-Arts de Pékin, donc qui ont construit cette statue un peu sur le champ, si j'ose dire. Cette statue, évidemment, quand vous la regardez, c'est difficile de ne pas penser justement à la statue de la liberté américaine, avec ce même bras levé avec la torche, le symbole de la lumière ou des lumières. Donc cet espoir placé dans la démocratie et la liberté, là on peut difficilement être plus explicite, cet étudiant qui brandit donc une banderole où il est marqué en anglais « Liberty », hein, s'accompagne donc de la visite en coulisses de M. Gorbatchev et de son épouse, que les dirigeants chinois n'ont évidemment pas pu emmener, comme ils auraient dû le faire, sur la place Tiananmen, parce qu'elle était légèrement occupée. Et donc là, ils ont dû se contenter justement d'une réception donc, à l'intérieur de Zhongnanhai. Donc, M. Gorbatchev, qui a l'air très enjoué ici, qui est en train de boire quelque chose, peut-être d'un tout petit peu alcoolisé, a l'air très enjoué, hein, mais il ne sait peut-être pas, justement, que sur la place, il y a des étudiants qui lui souhaitent la bienvenue. Hein. Vous avez ici, donc, un étudiant qui tient cette pancarte, hein, avec la photo de Gorbatchev, et donc en dessous il a écrit donc je les hoying, oui, donc bienvenue chaleureusement à Monsieur Gorbatchev, et il dit en haut, hein, qu'il rend hommage justement à celui qui a amené donc un peu plus, enfin le processus de démocratisation en URSS. Mais évidemment, donc tout ça, c'était avant, bien sûr, les événements ultérieurs. Mais ici, je pense que ce que saluent les libéraux chinois, hein, c'est la volonté de Gorbatchev de procéder à une réforme de l'intérieur des structures de l'État et du parti. Hein. Donc, au fond, ça a été justement la grande discussion, enfin, des manifestations de 89, hein, c'est qu'au fond, ces étudiants n'étaient pas là pour renverser le système. Hein, donc il n'y avait pas véritablement raison chez les dirigeants de prendre peur, hein, mais c'est justement, ça paraît de manière explicite avec cette photo de Gorbatchev, c'est que au fond il demandait aux dirigeants de l'État et du parti, enfin qui se confondent, hein, c'est vraiment un État-parti, d'essayer de se réformer de l'intérieur. Mais bon, la fin, vous la connaissez. Donc, dans la nuit du 4 juin, le pouvoir en place choisit d'envoyer les chars, donc écraser donc les étudiants qui restent sur la place. Et donc, jusqu'à ce jour, on ne connaît toujours pas le nombre exact de victimes, d'autant plus que cet événement de 89 est censé n'avoir jamais eu lieu. Ça, officiellement, on ne sait pas ce que c'est que 89. Alors, toujours est-il que quand même, pour les leaders chinois, depuis ce moment-là, 1989 est resté quand même comme un traumatisme marquant, mais peut-être davantage parce qu'il marque en quelque sorte le début de la fin du système soviétique, qui est devenu à ce moment-là le contre-exemple par excellence pour le système communiste chinois, hein, donc plus pour ça que pour finalement l'écrasement du mouvement étudiant. Hein. Alors, ces relations de la Chine avec l'URSS, bon, je ne m'y arrête pas, ce n'est pas mon propos, mais il faut quand même se rappeler que ça s'inscrit sur fond de déjà de querelles depuis des décennies, puisque dès les années 1960, le régime communiste chinois s'est inscrit violemment en faux contre ce qu'il appelait le révisionnisme soviétique, hein, donc le Xiuzhengzhuyi. Hein, Et donc, là, avec la perestroïka de Gorbatchev, hein, perestroïka qui veut dire reconstruction ou restructuration, précisément, hein, Gorbatchev, avec son échec, hein, Gorbatchev maintenant fait partie justement des perdants de l'histoire, hein, il fallait éviter à tout prix pour le régime chinois de glisser sur la même pente extrêmement glissante et dangereuse de libéralisation, puisque c'est un processus qui a fini par mener l'URSS à sa perte finale et irrémédiable. Donc là, je pense que les dirigeants chinois ont vraiment pris la leçon donc, de cet événement, mais évidemment, le prix à payer a été précisément d'envoyer l'armée et les chars écraser des manifestants pacifiques et massacrer donc, la jeunesse, ce qui a causé, bien sûr, un traumatisme profond, durable et ineffaçable malgré tous les efforts déployés pour le faire tomber dans les oubliettes de l'histoire. Vous avez cet intellectuel russe, Andrei Gratchev. Alors oui, ici, autre caricature, enfin, pour s'amuser un peu, donc on efface l'image des chars et des manifestants de 89 en collant du papier peint, hein, avec une plastiamen qui est redevenue toute propre, où il n'y a plus personne. Alors, Andrei Gratchev donc, a écrit ce livre dont vous avez la couverture à l'image. Alors, ce Gratchev était un proche de Gorbatchev en son temps. Et dans ce livre, il reprend peut-être ce qui passait pour être une de ces fameuses blagues soviétiques, hein, selon laquelle l'avenir... Ben, l'avenir, c'est très facile à prévoir, hein, mais ce qui est difficile à prévoir, c'est le passé. Et donc Gratchev a publié ce livre dont le titre est « Le passé de la Russie est imprévisible », hein, qui est paru aux éditions Alma en 2014. Et à l'opposé, on pourrait dire que le régime chinois actuel fait tout, au contraire, pour que le passé de la Chine soit au contraire non seulement prévisible, mais prévu, programmé, de bout en bout, et dans ses moindres détails, et en quelque sorte figé comme dans un musée de cire, dans un récit déterminé donc, par l'État parti. Alors, maintenant, la question, c'est de se demander comment il se fait que non seulement le régime chinois n'ait pas été emporté dans la tourmente de juin 89 et surtout emporté par ses conséquences, mais que bien au contraire, il n'ait essuyé aucune contestation d'ampleur par la suite, hein, et que la population dans son ensemble et continuer à le garder au pouvoir, au fond, voire à le soutenir avec un certain enthousiasme dans une idéologie nationaliste grandissante. Ça, c'est quand même, ça demande une petite explication, hein, je pense. Alors, en effet, on remarque qu'au lendemain de 1989, du massacre, c'est-à-dire à partir des années 1990, la propagande officielle remet à l'honneur, en la martelant sur tous les tons, hein, et sous toutes les formes, la thématique des 100 ans d'humiliation, hein, que la Chine aurait subi, hein, enfin a subi certes, mais enfin bon, disons que tout d'un coup, on voit se réveiller cette thématique dans les années 90, des 100 ans d'humiliation, que la Chine a subi aux mains des puissances impérialistes et coloniales occidentales. Alors, je m'empresse de préciser que ça comprend le Japon. Et même, on va voir que ça commence par le Japon, même aux yeux des Chinois. Donc, à partir du milieu du XIXe siècle, les fameuses guerres de l'opium, jusqu'à la libération, comme l'appelle le régime communiste de 1949, la libération de la Chine par l'armée communiste qui a donc chassé le régime nationaliste de Chiang Kai-shek en place vers Taïwan. Alors, c'est donc ce récit des 100 ans d'humiliation, du siècle d'humiliation, qui a été mis en avant, semble-t-il, pour faire oublier le traumatisme de 1989 et qui a de fait accompagné la montée en puissance de la Chine à partir des années 2000. Et c'est la revanche éclatante de la Chine communiste sur l'impérialisme occidental, mais en réalité, encore une fois, aux yeux des Chinois, avant tout de l'impérialisme japonais, qui est chargé de faire oublier donc tous les traumatismes de la période maoïste et immédiatement post-maoïste. Alors ça, c'est la thèse centrale d'un livre qui a fait beaucoup parler de lui. C'est ce livre écrit en anglais qui s'intitule « Never Forget National Humiliation ». Donc, « N'oubliez jamais l'humiliation nationale » et en sous-titre « Historical Memory in Chinese Politics and Foreign Relations ». Donc, la mémoire historique dans la politique et les relations étrangères, les relations internationales chinoises. Et ce livre est dû donc à un universitaire chinois, mais qui, comme beaucoup de ses collègues, a fait carrière aux États-Unis, qui s'appelle Wang Zheng. Vous l'avez ici en photo, Monsieur Wang Zheng, donc tout à fait occidentalisé, on pourrait dire. Actuellement professeur à l'école de diplomatie et de relations internationales de l'université Seton Hall dans le New Jersey aux États-Unis. Et alors donc dans ce livre, Monsieur Wang Zheng, donc qui, comme vous le remarquez sur la couverture du livre, est appelé aux États-Unis Zheng Wang, mais enfin bon, ça c'est, j'ai déjà remarqué cette manie américaine d'occidentaliser les noms chinois, hein, donc d'inverser donc le nom de famille avec le nom personnel. Donc Wang Zheng commence par la constatation, hein, que quiconque pense à la Chine, hein, à la Chine, disons, des dernières décennies, hein, a tendance à voir mentalement cette image qui a fait le tour du monde, hein, qu'on appelle en anglais, ou plutôt en américain, de Tank Man, hein, donc cet homme seul, avec un sac en plastique au bout de la main, deux sacs en plastique au bout des bras, qui est tout seul face à une armada de chars. Hein. Nous sommes au lendemain du massacre, le 5 juin donc 1989, et tout d'un coup, on voit cet individu donc faire face tout seul, sans armes évidemment, en bras de chemise et ses sacs en plastique, il revient de faire ses courses, tout seul face à une rangée de chars, tous donc armés. Hein. Alors, Monsieur Wang Zheng part justement de cette constatation que, évidemment, en Occident, quand on pense à la Chine, on pense immédiatement donc à cette image qui traduit au fond une relation extrêmement conflictuelle entre le peuple chinois et son régime communiste. De fait, hein, beaucoup d'analystes, d'observateurs, au lendemain du mouvement pro-démocratique de 89, avaient donc prophétisé que, avaient donc dit jusqu'à plus soif que le gouvernement chinois était illégitime, qu'il avait perdu sa légitimité, et que donc le peuple n'avait qu'une hâte, c'était de le renverser, de s'en débarrasser. Mais donc continue Monsieur Wang Zheng, donc il constate que dans les décennies qui ont suivi, c'est pratiquement le contraire qui s'est passé. Si vous passez par justement les tremblements de terre des années 2008-2010, où les dirigeants se sont précipités sur place devant les caméras naturellement pour montrer leur compassion vis-à-vis du peuple. Si vous considérez donc ce que la Chine a regardé comme des réussites intégrales, les Jeux olympiques de Pékin de 2008, l'exposition universelle de Shanghai de 2010. Hein, donc, c'est vraiment un petit peu l'image opposée que vous avez. Hein, et à tel point que, constate M. Wang Zheng, le régime actuel en place à Pékin, hein, a le soutien d'un peuple qui est au contraire extrêmement patriotique et que, dit-il, beaucoup de gouvernements en fait lui enviraient. Enfin, je ne suis pas tout à fait sûre de ça, mais enfin, c'est pourquoi pas. Alors pourquoi se demande M. Wang Zheng, donc cette jeune génération chinoise, hein, parmi laquelle vous trouvez justement un très très grand nombre qui, enfin, disons, vous avez toute une élite qui a été envoyée dans les universités américaines ou européennes, hein, dont évidemment M. Wang Zheng lui-même fait partie. Hein, comment se fait-il donc que cette génération soit aussi patriotique et nationaliste ? Alors, certes, évidemment, ces jeunes gens chinois d'aujourd'hui, hein, ne sont plus, bien sûr, ils n'ont plus rien à voir avec la génération de leurs parents ou de leurs grands-parents, qui éventuellement ont fait partie des mouvements des gardes rouges pendant la révolution culturelle, et ils ne sont pas non plus, en fait, ils ne s'identifient pas du tout non plus à la génération, disons pro-démocratique de Tiananmen. Donc là, en Chine, le raisonnement de génération est extrêmement important. Très souvent, je me retrouve, enfin, dans des circonstances publiques, à répondre à des questions du genre alors les Chinois, qu'est-ce qu'ils pensent de ceci, cela ? Bon, je commence par dire bon, déjà. La Chine est à l'échelle d'un continent, n'est-ce pas ? Enfin, avec des ethnies différentes, un nombre incalculable de langues différentes, des cuisines différentes, et d'autre part, les Chinois, c'est aussi des gens comme nous, c'est-à-dire qui appartiennent à des générations différentes. Et là, les générations, ça se définit quelquefois à une ou deux années près. Je vois par exemple, je vous ai cité l'exemple parce que je parle d'expérience, citer l'exemple de la famille de mon mari, défunt, dont le frère aîné, qui avait juste 2 ans de plus que lui, a été envoyé donc à la campagne, comme on disait à l'époque, hein, donc dans de la province, l'une des provinces les plus déshéritées de Chine, qui se trouve être ma province ancestrale, donc je sais de quoi je parle, le Jiangxi, et qui en est pratiquement mort, alors que mon mari, lui, en fait, a été relativement épargné, hein, dans la mesure où lui, on l'a envoyé simplement à l'usine. Hein, il n'a pas pu faire d'études, mais on l'a envoyé à l'usine pour travailler, mais toujours est-il qu'il est resté quand même sur son lieu de naissance, à savoir Shanghai. Donc, vous voyez que là, en fait, les générations et les expériences peuvent varier de manière absolument radicale en Chine, quelquefois même à juste quelques années près. Alors, Maintenant, en revenant justement à ce livre de monsieur Wang Zheng, il se demande justement quelles peuvent être les racines, les sources de ce néo-nationalisme, hein, et au fond, comment est-ce qu'on peut expliquer, hein, ce qui s'est passé pendant cette génération, hein, 20-30 années depuis 89. Avec cette situation extrêmement paradoxale, justement, enfin, d'une jeunesse qui maintenant est égayée dans le monde entier, hein, et je peux vous dire là aussi d'expérience, en m'étant adressée à pas mal d'étudiants chinois qui viennent en France, et là aussi on me demande très souvent la figure enfarinée, mais du coup ils doivent avoir l'esprit beaucoup plus ouvert. Non, pas du tout, c'est le contraire. C'est le contraire. Vous avez des jeunes étudiants chinois qui viennent en France se former à diverses disciplines, bon, mais qui sont capables, justement. Enfin, si je pense que si j'en avais devant moi, il y en aurait sûrement un qui me dirait que c'est scandaleux ce que je raconte. Hein, bon, et que je suis évidemment une. Comment dire, je fais partie de ces anti-patriotes, anti-chinois. Bon, évidemment, il faudrait qu'ils m'expliquent pourquoi j'ai choisi d'épouser un mari chinois. Enfin, pourquoi j'ai choisi d'enseigner la civilisation chinoise, n'est-ce pas ? Voilà. Mais je suis, pour beaucoup, anti-chinoise. Bien. Alors, Monsieur Wang Zheng pense avoir une clé déterminante pour expliquer ce paradoxe. C'est justement cette référence à ce qu'il appelle la mémoire historique. Et il dit que chaque fois qu'il est amené à exposer ses travaux de recherche, il commence toujours par montrer quelques photos, dont celle-ci, qui figure donc sur la couverture de son livre. Alors là aussi, vous voyez donc un groupe d'écoliers chinois. Hein, ils ont tous le foulard rouge donc du pionnier, du jeune pionnier communiste, et ils font le salut, donc le salut communiste, point levé en l'air, hein, et vous voyez qu'ils sont tous à l'unisson, hein, vous avez toutes les bouches ouvertes en même temps, hein, et vous voyez aussi qu'ils crient très fort. Et qu'est-ce qu'ils crient, comment dire, la phrase qui est inscrite au tableau noir derrière eux, Wu Wang Guo Chi, Qiang Wo Guo Fang. Alors, donc vous avez de nouveau ces formules à quatre caractères, hein, dont les Chinois sont extrêmement friands. Hein, vous connaissez tous justement ces fameux Cheng Yu, hein, c'est-à-dire donc ces expressions toutes faites à quatre caractères. Et donc, quand vous voulez inventer, par exemple, un slogan, quelque chose qui vous reste bien en mémoire, en général, c'est quatre caractères. Bon. Alors, donc, Wu Wang Guo Chi, donc, n'oubliez pas le chi, la honte, quoi, du pays, la honte nationale, hein, donc c'est le titre du livre de monsieur Wang Zheng. Et la deuxième formule à quatre caractères, qiang wo guo fang, donc c'est la conséquence logique, hein, renforçons donc la défense de notre pays, la défense nationale. Et vous entrevoyez entre les têtes des écoliers du dernier rang donc cette autre phrase, donc Ji Nian Jiu Yi Ba Shi Bian, c'est-à-dire donc célébrons la mémoire, hein, donc commémorons, hein, le Shi Bian, donc l'incident, hein, l'événement de Jiu Yi Ba, c'est-à-dire donc 9-1-8, c'est-à-dire littéralement Jiu, c'est toujours le mois, hein, donc 9e mois, septembre, Yi Ba, c'est-à-dire 1-8, 18, donc l'incident du 18 septembre. Alors nous allons voir à quoi ça fait référence, mais toujours est-il que parmi les images que montre Monsieur Wang Zheng, donc en commençant ses exposés. Il y a aussi cette photo d'une petite fille de 9 ans qui, d'une main, tient une bouteille d'encre. Enfin, je pense que c'est une bouteille de soda, enfin, dans laquelle qu'elle a recyclé en bouteille d'encre, et qui calligraphie. Alors évidemment, la calligraphie n'est pas très très au point, mais enfin bon, où on reconnaît encore une fois ces quatre caractères, donc Wangquoch. Donc n'oublions pas la honte nationale. Et elle peint ça sur donc le capot de la voiture de son père, j'imagine avec l'autorisation du papa en question, c'est censé se passer dans une manifestation anti-japonaise qui a eu lieu donc en 2005. Donc là, nous allons voir que justement les Chinois ont une dent particulière contre les Japonais. On va voir pourquoi. Disons que le Japon sert un petit peu, comment dire, de joker. Chaque fois que les choses se tendent un petit peu, c'est le Japon qui s'en prend plein la figure, si j'ose dire. Et c'est là qu'on ressort justement ce genre de slogan nationaliste. Alors là aussi, vous avez toutes les formes possibles et imaginables, un petit peu comme je vous ai montré les 12 valeurs centrales du socialisme. Donc ça se présente sous toutes sortes de formes. Ici, vous avez donc une banderole officielle qui reproduit encore une fois ce slogan, donc de ne pas oublier de se remémorer l'histoire. Là aussi, ça vaut son pesant de cacahuètes. Enfin, je veux dire, quelle histoire, hein, c'est précisément notre question à nous. Et de nouveau, cette formule, donc n'oublions pas la honte nationale. Et là, vous avez donc des écoliers qui sont un petit peu plus âgés et qui inscrivent chacun leur nom sur cette banderole. Là aussi, donc même scène, donc qui se reproduit. Donc vous voyez, ils viennent tous par rangées successives inscrire leur nom sur cette banderole qui porte toujours le même slogan, donc à grand renfort de drapeau rouge, de foulard rouge. Ça concerne aussi les plus grands. Vous avez ici donc des officiels qui viennent également signer en uniforme. Et là, vous avez la version donc Robert Mitchum, si j'ose dire, donc inscrite sur les phalanges de quelqu'un qui a l'air particulièrement remonté. Alors là, ça ne fait plus partie des images de Monsieur Wang Zheng, mais enfin, moi, je continue. Vous avez ici une manifestation aussi anti-japonaise, avec toujours ce même slogan. Alors, dans quelle mesure ces manifestations sont organisées disons que connaissant ce dont est capable une foule chinoise, là je trouve qu'ils sont plutôt bien rangés, bien disciplinés. Mais enfin bon, c'est peut-être une impression personnelle. Là aussi, vous avez ce même genre de manifestation. Ici, vous trouvez ça sur la couverture d'un ouvrage collectif. Je vous montre un petit peu toutes les formes que ça peut prendre. Et puis ici, vous avez également une soi-disant manifestation, donc où là vous n'avez pas la formule en quatre caractères, mais vous avez simplement donc les deux caractères quoch, c'est-à-dire la honte nationale, l'humiliation nationale, et dont le jour est fixé au justement 18 septembre. Alors ce 18 septembre, ça fait référence au 18 septembre 1931, qui est resté dans l'histoire sous le nom d'incident de Mukden. Mukden, c'est en Mandchourie, donc au nord-est de la Chine. Et vous voyez ici une photo d'époque qui montre les troupes japonaises Fanfare en tête, hein, entrée dans Chichihar, qui est une ville de Mandchourie. Et c'est ce qu'on a appelé donc l'incident de Muden du 18 septembre 1931, où les Japonais, utilisant une stratégie mais classique, de toutes les armées d'occupation, donc à prétexter un incident pour évidemment commencer à mettre le pied dans certaines villes de Mandchourie. Et ça a été le départ donc de l'occupation japonaise de la Mandchourie, qui est devenue donc l'État fantoche du Manchukuo, donc à partir de 1931. Donc ça, on peut dire que pour les Chinois, c'est véritablement le point de départ pour eux du deuxième conflit mondial. Donc ça, c'est quelque chose que nous, du côté occidental, nous avons tendance à oublier. Pour nous, Européens, la Deuxième Guerre mondiale a commencé en 1939, mais pour les Chinois, ça a commencé beaucoup plus tôt, presque 10 ans avant, avec justement ce début de l'occupation japonaise en Mandchourie. Et là, vous voyez que les Japonais, ils ne sont pas allés de main morte, ils ont vraiment taillé une belle croupière donc au territoire chinois. Alors maintenant, est-ce que ça explique pourquoi il y a cette obsession justement de la honte nationale? C'est ce que nous allons continuer à voir la semaine prochaine. Et merci à tous ceux qui nous suivent donc à distance. Bonne semaine et à bientôt, j'espère.